Radio Okapi.
Le journal Gisèle Cage. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous avec l'actualité. Voici ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Abus policier et agent fictif Jacquemin Chabani face aux députés pour répondre à une question orale avec débat. Le ministre de l'Intérieur évoque des contrôles inopinés pour traquer les auteurs des violations de droits et libertés fondamentaux des citoyens. Effondrement d'un immeuble en chantier à Bounia en Ituri. Au moins 2 morts et plusieurs ouvriers, dont des élèves stagiaires, toujours coincés sous les décombres. Le secours appuyé par la MONUSCO et les autorités locales poursuivent les recherches pour retrouver d'éventuels survivants. Matadi, l'hôpital provincial de Kinkanda à sec depuis 2 mois, malgré un défi de la régie des eaux resté sans suite depuis mars dernier. Que se passe-t-il? Qui freine la solution? Notre invité du jour, Théodore Socrate Kabeyangandou, directeur régional de la régie des eaux Congo Central, répond aux questions de la rédaction. Restez avec nous pour en savoir plus. Ouverture de ce journal à l'Assemblée nationale où Jacquemin Chabani, vice-premier ministre en charge de l'intérieur, de la sécurité, de la décentralisation et des affaires coutumières a été entendu hier jeudi. Il répondait à une question orale avec débat initié par les députés Venance Eyanga Mboyo, inquiets face à la recrudescence des arrestations arbitraires, de tracasseries policières et de la présence d'agents fictifs au sein de la police nationale. Cette audition intervient dans un contexte de vives préoccupations sur les bavures policières régulièrement dénoncées par la société civile et certains élus. Le point avec Grâce Hamzati.
Parti d'un constat fait lors de ses vacances parlementaires, l'élu de Moamba s'inquiète de la dégradation de la sécurité à Kinshasa, causée également par les agents de la police. Et Yangamboyo Venance.
Ces agissements de la part de ceux qui pourtant sont commis à la protection des citoyens et de leurs biens, aggrave la situation et ternissent davantage l'image de notre État et de nos institutions, mais aussi de l'État des droits que nous aspirons à consolider.
En réponse, le ministre de l'Intérieur rassure les élus du peuple de son implication dans la sécurisation des populations et de leurs biens. Pour Jacquemin Chabani, le projet de loi portant réforme de la police est une réponse aux questions posées.
En attendant l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi de programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police, le contrôle à l'improviste s'effectue pour mettre la main sur tous les éléments qui s'évertuent à tracasser la population, à opérer des opérations arbitraires et à violer les droits et libertés fondamentaux des citoyens.
Au cours du débat, une quarantaine de députés se sont étalés sur d'autres cas d'insécurité, notamment à Lubumbashi et à Boma. Le conflit des chefs coutumiers dans les provinces, les phénomènes Kuluna à Kinshasa et Mobondo au sud-ouest du pays, ainsi que des braquages. Dans l'optique de satisfaire toutes les préoccupations des élus nationaux, Jacquemin Chabani a sollicité un délai de 48 heures qui lui a été accordé.
Lors de la plénière de ce jeudi, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a annoncé la mise en place de 2 commissions chargées d'examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation visant le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. Alors que le Sénat vient d'adopter mardi dernier la 98e prorogation de l'état de siège en vigueur dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, des voix s'élèvent pour appeler à une meilleure collaboration entre civils et militaires. C'est le cas d'Eze Kanindu, député honoraire élu de Lubero, qui plaide pour un renforcement de la cohabitation civilo-militaire dans les territoires de Lubero et la ville de Butembo. Dans sa déclaration, il souligne que la situation sécuritaire continue de se détériorer dans ces zones malgré les mesures exceptionnelles en place. Il estime que les cadres civils récemment nommés à la tête des entités locales devraient progressivement entrer en fonction afin de rétablir un équilibre et améliorer la gouvernance locale. Suivant ses propos.
Nous sollicitons l'allègement graduel des mesures d'application de l'état de siège proclamé dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Dans l'ordonnance portant mesures d'application de l'état de siège, les maires et les maires adjoints ont été nommés pour diriger les villes et au niveau des territoires, les administrateurs et les administrateurs assistants. Pour la ville de Butembo et le territoire de Lubero actuellement, les défis sécuritaires et le développement de ces entités appellent la conjugaison d'efforts entre les dirigeants, mais aussi la cohabitation pacifique entre civils et militaires en vue de renforcer les mariages civilo-militaires. C'est pourquoi, en attendant la levée définitive de l'état de siège, il plaise au ministre de l'Intérieur de réhabiliter parmi les maires et les administrateurs nommés dont l'ordonnance a été mise à veiller en vue de renforcer cette cohabitation, surtout la sécurité étant une affaire de tous.
Au maniement, le gouverneur Moïse Moussa Kabouankoubi présente le rapport d'activité du gouvernement provincial pour l'exercice 2024. C'était hier jeudi devant les députés provinciaux. Ses bilans couvrent les 5 premiers mois de sa gestion conformément à son programme d'action. Tout en reconnaissant qu'il reste des défis à relever, le chef de l'exécutif provincial s'est félicité des avancées enregistrées rendues possibles grâce à la collaboration de l'Assemblée provinciale et au soutien de la population. Un reportage signé Florence Kizalunga.
Dans son rapport, le gouverneur du Maniema affirme avoir obtenu des résultats dans presque tous les secteurs, de la sécurité passant par la santé, l'éducation et les infrastructures. Cependant, Moussa Kabouankoubi évoque également les difficultés rencontrées.
C'est d'abord la mise en place des taxes conventionnelles parce que la culture fiscale n'existe pas et il a fallu beaucoup de temps pour mettre en place ces taxes conventionnelles. Et nous devons avouer que sans ces taxes conventionnelles-là, aujourd'hui, nous n'aurions pas des bilans à proposer.
L'Assemblée provinciale encourage le gouverneur à continuer dans ce sens de poser des actions concrètes. Papi Omeonga Chopa, le rapporteur.
Le gouverneur de province a présenté son rapport par rapport aux différents actes et conformément à son programme d'action qu'il avait présenté. Et nous avons trouvé qu'il y a quand même eu des avancées, bien qu'il y ait des difficultés notamment liées à l'appui financier.
La société civile Force Vive du Maniema, qui dit se réjouir, promet son accompagnement au chef de l'exécutif provincial, Maître Stéphane Kamundala.
C'est un exercice qui n'a jamais existé ici chez nous, mais il vient avec une nouvelle méthodologie de la gestion. Nous pensons que s'il continue ainsi dans cette transparence de la gestion, il aura toujours l'accompagnement de la société civile.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
À Bunia, province de l'Ituri, dans le quartier Bankoko, un immeuble de 3 étages en construction s'est effondré jeudi, piégeant sous les décombres une 20aine d'ouvriers, dont plusieurs élèves stagiaires. Selon des sources concordantes, 5 personnes ont pu être extraites vivantes et transportées d'urgence à l'hôpital. 2 corps sans vie ont également été retrouvés. Face à ces drames, la MONUSCO, en collaboration avec les autorités provinciales et d'autres partenaires, a rapidement déployé des moyens de secours pour tenter de sauver les victimes encore ensevelies. Isaac Remoyope s'est rendu sur le lieu du drame. Voici le récit qu'il en fait.
Les drames s'est produit jeudi dans l'après-midi pendant que des maçons, des soudeurs, des électriciens et même des élèves stagiaires en électricité effectuaient les travaux de finissage de ces bâtiments à 3 niveaux. Soudain, l'édifice s'est écroulé pour des raisons non encore élucidées. Certaines autorités, dont les maires de la ville, se sont déployées sur place pour mobiliser les ressources ainsi que des moyens logistiques pour sauver des vies en détresse. Des casques bleus népalais, indonésiens, sénégalais ainsi que des policiers de la MONUSCO sont à pied d'œuvre depuis jeudi après-midi aux côtés des équipes de secours avec 4 ambulances pour tenter de retrouver des survivants. Au moins 6 personnes sont déjà sorties vivantes, fracturées ou blessées et sont admises aux soins d'un district sanitaire local. Pour l'instant, il y a 2 morts. D'autres personnes dont le nombre n'est pas encore déterminé avec précision sont encore coincées sous les décombres. Selon un rescapé, ils étaient au total 30 ouvriers dont 7 élèves. Les recherches se poursuivent pour extraire d'autres survivants. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
À Kinshasa, le collectif des syndicats des affaires foncières a réaffirmé le mercredi dernier au Palais du Peuple son appui aux réformes engagées par la ministre d'État en charge des affaires foncières, Acacia Bandumbola. Ces réformes visent à assainir un secteur longtemps gangréné par les conflits fonciers et les constructions anarchiques. Dans une déclaration publique, le collectif a salué la clarté et la détermination du discours de la ministre qu'il considère comme un signal fort en faveur du rétablissement de l'autorité de l'État dans la gestion du domaine foncier. Pour Léon Bakaka Kialamba, rapporteur du collectif, les mesures en cours pourraient transformer le sol congolais en un véritable moteur de développement au lieu d'être une source de précarité et de tension. Léon Bakaka Kialamba s'est exprimé au micro de Michel Kifindangoy.
Nous saluons les réformes courageuses prises pour mettre fin aux pratiques contraires à la loi foncière, telles que la déclaration abusive des biens sans maître, les morcellements anarchiques et les attributions irrégulières des concessions. Nous saluons la volonté de promouvoir une gouvernance foncière saine, équitable et orientée vers le développement durable. Nous réaffirmons notre détermination à accompagner les efforts des réformes engagées et à travailler aux côtés de Madame la ministre pour la matérialisation des objectifs stratégiques du gouvernement en matière foncière. Considérant que la protection des populations et la préservation de l'environnement urbain sont des priorités non négociables, nous demandons à la population d'éviter d'acheter et de construire n'importe où. Nous invitons tous les agents du secteur, les partenaires techniques et les citoyens à soutenir cette dynamique qui vise à faire le sol un véritable levier de développement en lieu et place d'un facteur de conflit et de précarité.
Nord Kivu à Beni, le gouverneur Évariste Kakule Somo s'engage pour la jeunesse. Mercredi dernier, il a rencontré le chef de division provinciale de la jeunesse, Guy Kibira. Au cœur de leurs échanges, la situation préoccupante des jeunes dans un contexte d'insécurité persistante. Les deux responsables ont insisté sur la nécessité d'un meilleur encadrement, de la valorisation des compétences locales et de la création d'infrastructures adaptées pour canaliser les talents. Une table ronde et d'ailleurs en préparation afin de définir une stratégie concertée en faveur de la jeunesse. Guy Kibira revient sur cette initiative dont cet extrait sélectionné par Marcel Papimoukeba.
Nous avons passé en revue la situation de la jeunesse et il a été démontré clairement que les jeunes sont vraiment dans une situation qui mérite d'obtenir l'attention de tous pour leur encadrement, au fait d'en faire justement des citoyens à part entière qui peuvent accompagner en toute responsabilité l'action gouvernementale. C'est ainsi que nous avons discuté et en finiche, l'autorité estime qu'il faille que nous organisions une table ronde pour recueillir les avis des plusieurs acteurs qui interviennent pour l'encadrement des jeunes afin d'avoir une feuille de route pour l'encadrement de la jeunesse. Bien plus, il a demandé également qu'on envisage d'avoir une base de données pour documenter les compétences nécessaires que regorge la jeunesse du Nord Kivu pour que toutes les fois que des opportunités d'emploi s'offrent, on puisse orienter ou du moins recruter les jeunes avec beaucoup de facilité. Il a estimé qu'il faille également penser à des infrastructures qui peuvent aider à développer les talents des jeunes.
Retour à Nitori, la MONUSCO a procédé hier jeudi au lancement officiel des travaux de construction d'une salle de formation au sein de l'auditorat militaire supérieur de Bounia. Ce projet initié en réponse à une demande de l'auditeur militaire supérieur vise à offrir un cadre adéquat pour le renforcement des capacités techniques et professionnelles du personnel judiciaire militaire. Les précisions avec Ezekiel Mousalia.
Ce projet à impact rapide de la MONUSCO a pour but de renforcer les capacités des prestations des magistrats et former quotidiennement des acteurs judiciaires dans l'instruction et poursuite des infractions. Avec cet ouvrage, les secrétariats de l'auditorat supérieur et celui des garnisons seront dissociés. Pour l'avocat général, près la cour d'appel de l'Ituri, le colonel Wawina, ces bâtiments vont offrir aussi un bon cadre d'apprentissage aux acteurs judiciaires qui ont choisi la magistrature militaire.
Le secrétariat de l'auditorat militaire supérieur est confondu avec celui de la garnison. Il en est de même pour les informaticiens qui partagent la même salle. Nous remercions en tout cas la MONUSCO. À l'époque, pour former les magistrats, c'était qu'est-ce que nous pouvions chercher des salles à louer. Mais aujourd'hui, avec ça, ça va améliorer la capacité des magistrats.
Josiah Obat, chef des bureaux de la MONUSCO, réitère le soutien de la mission onusienne de continuer à appuyer le secteur de la justice dans le cadre de la lutte contre l'impunité dans cette province.
Ce projet de construction d'une salle de formation répond aux besoins cruciaux. Il vise à doter le personnel judiciaire à un cadre approprié d'approfondissement des compétences techniques.
Ce projet est financé à hauteur de 49 998 $ américains, va durer 4 mois. Bounia, Ezekiel Mousalia, Radio Okapi.
Toujours en Ituri, flambée de prix dans la chefferie des Babila Babombi située dans les territoires de Mambasa. Les habitants font face depuis quelques temps à une hausse inquiétante de prix de denrées alimentaires et de services de base. La Convention pour le respect des droits de l'homme et de l'environnement, CRDHE, antenne de Mambasa, tire la sonnette d'alarme. Selon cette organisation, le prix d'une bassine de farine de manioc est passé de 5 à 10 $ américains. Un simple épi de maïs grillé autrefois vendu
vendue entre 2000 et 3000 francs congolais coûte désormais jusqu'à 10 000 francs. Le transport n'est pas épargné. Le trajet Beni-Biakato qui coûtait 5 dollars est désormais facturé à 10 dollars. Ramson Malikidogo, secrétaire de la CRDHE, attribue cette flambée de prix à l'insécurité persistante dans la région, mais aussi à l'abandon progressif des cultures vivrières au profit du cacao jugé plus rentable. Il s'est exprimé au micro de René Lintimbonera.
Cela est dit suite à la sécurité dans les profondeurs, parce que certains champs sont inaccessibles. Il y a des barrières érigées par certains groupes armés. La population n'accède plus librement à leurs champs. Il y a des taxes qu'on est en train d'exiger aux cultivateurs dans certaines zones où la population cultivait. Alors actuellement, lorsqu'on n'a plus accès aux champs, ça pose problème. Ça laisse casser que certains produits haussent les prix les marchés. Et aussi, certains cultivateurs se livrent actuellement à la culture de cacao qui semble être rentable par rapport à d'autres cultures. Alors, tout le monde veut être cultivateur de cacao. Alors, ça produit maintenant des conséquences parce que les gens ne se livrent plus à d'autres, à des cultures vivrières ou se livrent seulement à la culture de cacao et ça pose vraiment problème et ça pousse à ce qu'il y ait hausse de plusieurs produits sur les marchés.
Actualité internationale.
Le département d'État américain a annoncé hier jeudi l'entrée en vigueur des sanctions contre le gouvernement fédéral du Soudan, l'accusant d'avoir eu recours à des armes chimiques en 2024. C'est là dans le conflit sanglant qui oppose l'armée régulière dirigée par le général Abdel Fattah al-Bourhan aux paramilitaires des forces de soutien rapide FSR menées par le général Mohamed Hamdan Daglo. D'après des officiels américains, ces armes ont été déployées dans des campagnes isolées, mais certains redoutent un usage dans des zones densément peuplées comme les villes que se disputent encore l'armée et le FSR. Le département d'État américain reproche donc au Soudan de ne pas avoir respecté la convention sur les armes chimiques dont il est pourtant signataire. En conséquence, des sanctions seront prises comme de restrictions sur les exportations américaines à destination du Soudan ou la suspension d'aides financières. Ces mesures seront mises en application le 6 juin dans un communiqué publié. Ce vendredi, le gouvernement soudanais a démenti avoir eu un tel recours. Ces accusations sans fondement ne sont qu'un chantage politique, une falsification délibérée des faits, a indiqué le porte-parole du gouvernement.
L'invité.
À Matadi, au Congo central, l'hôpital provincial de Kinkanda tourne au ralenti. Plus d'eau dans les robinets de plusieurs pavillons depuis des mois. Pourtant, un devis de la régie des eaux censé résoudre cette crise dort dans les tiroirs depuis mars. Pourquoi ces silences qui bloquent? Pour en parler, notre invité du jour est Théodore Socrate Kabeyangangu, directeur régional de la régie des eaux au Congo central. Il répond aux questions des Nana Pluriche Mambo. Suivez.
Monsieur Théodore Kabeyangangu, bonjour.
Bonjour Madame Pluriche.
L'hôpital provincial de Kinkanda fait plus de 6 mois sans recevoir l'eau de la régie des eaux. Depuis quand et de quelle manière avez-vous reçu cette information?
Merci Madame. La situation de la perturbation de la desserte à l'hôpital de Kinkanda ne peut pas être assimilée à un manque d'eau totale dans l'hôpital. C'est plutôt une partie des pavillons de l'hôpital qui n'ont pas d'eau. Et ça a été porté à notre connaissance au mois de mars. Nous sommes descendus sur le terrain pour vérifier. Nous trouvons que notre eau arrive jusqu'à l'entrée, là où s'arrête notre responsabilité à l'hôpital. Et que certaines parties de l'hôpital, notamment le côté occupé par l'OMS, a de l'eau régulièrement. Mais il se fait que dans certains pavillons de l'hôpital, il y a un problème d'eau dû à la situation des installations intérieures dont les canalisations pour certaines sont bouchées, d'autres très vétustes et d'autres sous-dimensionnées. Et que, après l'expertise qui a été demandée par l'hôpital, parce que l'hôpital nous avait écrit depuis le 13 mars demandant notre expertise, d'après l'expertise, on a trouvé que le plombier de l'hôpital avait même isolé certains pavillons pour faire face à la situation là-bas qui s'est créée par rapport aux canalisations sous-dimensionnées ou bouchées. Et notre expertise sollicitée a fait son travail et le 20 mars, nous avons dressé un devis que nous avons transmis à l'hôpital pour que si on mettait à l'intérieur de la régie des eaux ces moyens-là, que l'on puisse chercher à remettre le réseau normal suivant notre expertise pour que chaque fois qu'il y a l'approvisionnement de l'hôpital, que tout le monde ait de l'eau. Donc ce n'est pas un problème de manque total de l'eau à Kinkanda comme on dit 6 mois, non. L'eau arrive à Kinkanda, mais il y a certains parvient de Kinkanda qui ne sont pas alimentés, mais ça c'est le travail intérieur, donc ce n'est pas la responsabilité de la régie des eaux.
Et depuis que vous avez remis les défis à l'hôpital, est-ce qu'ils ont déjà réagi?
C'est un problème d'abord de santé publique, comme on dit. Tout le monde ici est saisi, même les autorités politiques administratives sont au courant. Nous avons même été contactés par la mairie de la ville pour nous demander si on avait déjà transmis le devis. Et nous avions confirmé, et nous avions encore transmis sur base d'une lettre. Et là, nous attendons finalement que l'on puisse mettre en disposition de l'argent. Nous n'avons pas encore reçu un appel pour dire que l'argent est là. Mais du moins, le devis a été déposé. Il n'y a pas encore eu de réaction. Comme je vous dis, c'est depuis le 20 mars 2025.
Et vous, en tant que responsable de la régie des eaux, savez-vous l'impact du manque d'eau dans une structure médicale aussi importante que Kinkanda?
Oui, nous savons qu'à l'hôpital, il faut qu'il y ait de l'eau. C'est comme ça que nous sommes empressés à apporter notre expertise. Et on a amené l'expertise pour qu'ils mettent à notre disposition les moyens pour pouvoir les aider. Nous avons présenté un défi, comme je vous dis, qui a deux options. La première option, c'est la réhabilitation de la canalisation Vétus, ça s'élève à 12 000 $. Bon, le chiffre exact, c'est 12 711 $. Il y a aussi possibilité de leur construire un réservoir de 50 mètres cubes. Donc, si nous prenons cette deuxième option là-bas, et de faire la canalisation et construire le réservoir, ça amène à 56 711 $. Donc, il y a deux options. À eux de pouvoir dire quelle est l'option la plus rapide pour que nous puissions travailler.
Ça fait cette situation de manque d'eau dans l'hôpital a provoqué un tollé au niveau des réseaux sociaux. À ce niveau, quel message pouvez-vous lancer à la population des Matadi, spécialement à ceux qui se disent communicateurs au niveau de la province?
Quand on se déclare communicateur, il faut chercher l'information et la vraie pour la diffuser. Nous avons vu une vidéo des réseaux sociaux où quelqu'un s'en prend à la haute hiérarchie de la région, notamment au DG, d'habitude, pour dire que ici, la population de Matadi demande ceci parce qu'elle n'arrive pas à donner de l'eau. Non. Le problème est né localement, on le connaît, et les autorités nous avaient contactés aussi quand tout ça avait circulé. Nous nous sommes dit non, nous avons été sur le terrain, voilà ce que nous avons fait comme travail, nous attendons les financements. La population doit faire confiance à la région de l'eau qui se bat nuit et jour pour pouvoir amener de l'eau. Alors, s'il y a un problème de manque d'eau dans certains pavillons, ici, il faudra peut-être recourir aux responsables de l'hôpital qui connaissent la chose, à partir du médecin directeur. Et nous attendons tous ce financement. Donc, le problème, ce n'est pas la régie des eaux, c'est le financement pour que la régie fasse son travail. Parce que nous savons que Kinkanda, c'est une structure médicale. Il y a aussi CRC propre qui peut aussi faire face à ça. Parce que nous tous ici, on envoie les malades là-bas, nous payons nos factures. Donc, nous nous sommes adressés à Kinkanda. Si Kinkanda cherche l'appui des autorités, que les autorités puissent peut-être aider Kinkanda. Mais sinon, nous, nous voyons la structure qui nous envoie des factures. Nous nous payons, comme tous les autres malades.
Merci.
Merci, madame.
Notre invité ce jour, Théodore Socrate Kabeyangandou, directeur régional de la régie des eaux Congo central, a répondu aux questions de Nana Plurich Mambou. Il s'est exprimé sur la situation préoccupante du manque d'eau à l'hôpital provincial de Kinkanda, une crise qui perdure depuis plusieurs mois. Nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous à la prochaine édition pour les dernières nouvelles.